Le magazine des Nations Unies.
À la une de ce magazine, environ 4,5 millions de dollars américains pour, d'une part, combattre l'épidémie de la rougeole et d'autre part, juguler les effets néfastes du conflit population pygmée Luba au Katanga. C'est le premier acte du tout nouveau coordonnateur humanitaire des Nations Unies en RDC. Dr Mamadou Diallo a lui-même annoncé ses interventions. C'était mercredi à Kinshasa à l'occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire. Des détails dans ce magazine. L'actualité, c'est aussi cette mise en liberté provisoire par la Cour pénale internationale CPI sur la confirmation de 4 prévenus congolais accusés dans l'affaire Bemba. À ce sujet, le magazine des Nations Unies revient sur l'entretien que la coordinatrice chargée de la sensibilisation de terrain de la Cour pénale internationale CPI en RDC a accordé à Radio Okapi. Enfin, nous allons reparler de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel. En RDC, la campagne s'est déroulée du 13 au 17 août dernier sous le thème « Allaitement et travail ». Dans ce numéro, nous parlons justement de l'importance et des enjeux de l'allaitement au sein maternel, surtout en milieu de travail avec la représentante adjointe de l'UNICEF en RDC.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour et bon dimanche chez vous. Le 19 août dernier, c'était la célébration de la Journée mondiale de l'aide humanitaire. À Kinshasa, cette journée a permis au tout nouveau coordonnateur humanitaire des Nations Unies en RDC, Dr Mamadou Diallo, de se présenter à la presse et d'annoncer ses premières actions. Honoré Missenga Kalala.
Originaire de la Guinée, Mamadou Pété Diallo succède au Mali et Moustapha Soumaré au poste de représentant spécial adjoint de la MONUSCO. Fonction qu'il va cumuler avec celle de coordonnateur résident et coordonnateur humanitaire des Nations Unies, ainsi que celle de représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Nommé à toutes ces fonctions le 11 mai 2015, c'est donc pour la première fois en cette journée mondiale du 19 août consacrée à l'aide humanitaire que M. Diallo s'exprime devant la presse et dit dans quel contexte il prend ses fonctions en RDC.
Je prends mes fonctions en République démocratique du Congo dans un contexte que j'appelle un tournant. Après des années d'efforts, de sacrifices, le gouvernement de la République du Congo, les Congolaises et les Congolais, en partenariat avec les Nations Unies, sont arrivés à un moment où ils ont significativement réduit la menace que constituent pour la paix et la stabilité de ce pays les activités des forces négatives et autres groupes armés qui continuent de perturber la quiétude et de mettre en danger la vie, la sécurité, la prospérité de nos frères et sœurs qui vivent dans les provinces orientales de la République démocratique du Congo. Après donc ces améliorations, nous sommes en droit de croire que le Congo s'engage résolument dans la voie du développement afin de réussir le pari de l'émergence et de réaliser l'ambition nationale qu'est la révolution de la modernité.
En dépit de cette embellie, Mamadou Diallo est conscient des défis qui l'attendent face à la précarité de la vie des millions de Congolais.
Au moment où nous parlons, on a environ 1,5 million de personnes qui sont déplacées à l'intérieur des frontières de la République démocratique du Congo. Nous avons également le retour progressif de certains Congolais et de certaines Congolaises qui avaient quitté le territoire national pour diverses raisons, qui sont en train d'être rapatriés et réintégrés dans leur communauté d'origine. Il y a également, et c'est triste à dire, des Congolaises et des Congolais qui avaient établi racines dans des pays voisins du Congo, qui avaient trouvé du travail, qui avaient quelquefois fondé des familles et commencé des affaires, qui ont dû quitter précipitamment ces terres qu'ils considéraient comme étant des terres d'accueil et ont été rapatriés quelquefois de force à République démocratique du Congo. Il y a eu, il y a quelques semaines, un tremblement de terre à l'est de la République du Congo qui, heureusement, n'a pas entraîné d'énormes dégâts et de pertes en vies humaines. Mais c'est le genre de catastrophe naturelle qui est au-delà du contrôle de chacun de nous qui peut arriver et qui peut rendre des Congolaises et des Congolais vulnérables et auxquels on doit être préparé.
Et comme preuve de cette préparation, le coordonnateur humanitaire des Nations Unies évoque ses premières interventions en urgence pour faire face à deux situations préoccupantes dans l'ancienne province du Katanga.
L'ancienne province du Katanga, on a déjà dénombré plus de 20 000 cas de rougeole avec plus de 300 cas de décès. Au moment où nous parlons, en ma qualité de coordinateur humanitaire, j'ai approuvé un financement de 2,4 millions de dollars que j'ai rendu disponible aux acteurs humanitaires et aux acteurs gouvernementaux afin de pouvoir apporter une réponse rapide et un soutien à nos frères et sœurs dans l'ancienne province du Katanga afin de faire face à cette épidémie. Dans le même ordre d'idées, il y a encore quelques jours, en tenant compte des effets néfastes du conflit entre les communautés Twa et Luba dans la partie nord de l'ex-province du Katanga, en particulier dans les territoires de Nyunzu et de Kalemie, j'ai aussi approuvé un financement de 2 millions de dollars du Fonds commun humanitaire destiné uniquement à apporter un soutien à ces communautés au triple plan de la construction et de l'engagement entre les différentes communautés pour sécuriser un espace de vie en commun, appuyer les populations et les familles qui ont souffert de déplacements à cause du conflit et créer les conditions d'un dialogue harmonieux entre les communautés Twa et Luba afin de pouvoir restaurer la vie en commun et la vie communautaire qu'ils ont menée pendant des siècles.
Autre actualité, le ACR évalue le nombre des réfugiés burundais entrés sur le sol congolais depuis le mois de mars 2015 à 14 000. La moitié de ces nouveaux arrivants, soit 7 000, vit dans le camp Lusenda, près d'Uvira dans la province du Sud Kivu, alors qu'un peu plus des 1 000 autres ont poursuivi leur escapade jusqu'à Lubumbashi, où ils sont demandeurs d'asile. Concernant ces derniers groupes, le représentant régional du ACR RDC est catégorique. Aucun autre camp ne sera ouvert pour ces réfugiés à Lubumbashi ou ailleurs dans l'ex-province du Katanga et que par ailleurs l'assistance accordée à la moitié de ces demandeurs d'asile ne saura se poursuivre ni être étendue à l'autre moitié. L'idéal serait donc que ce Burundais accepte de rejoindre le camp de Lusenda. Monsieur Karl Norena Francisco Sergio l'a déclaré jeudi à la presse au siège du ACR à Kinshasa. Le propos du représentant régional adjoint s'en recueillit une fois encore par Honoré Missenga Kalala.
Parmi ces groupes de Lubumbashi, ceux qui veulent partir, on est prêt à leur faciliter les retours au camp dans lequel les conditions sont clairement établies pour qu'ils puissent jouir des droits. Ceux qui ne veulent pas retourner à Lusenda pour des raisons qui sont les leurs, ils peuvent s'établir là où ils veulent, mais certainement on n'est pas ni en mesure de les assister, ni pérenniser une assistance quelconque à leur égard. S'ils veulent rester, c'est à leur, je dirais, risque péril. S'ils veulent une assistance en permanence dans une ville, désolé, mais c'est contre la politique et on n'est pas en mesure de modifier la politique au service de quelques 1 000 réfugiés.
Les mines et les bombes blessent et tuent. Les mines et les bombes ont fait beaucoup de victimes en RDC. Les mines et les bombes sont de différentes formes, couleurs et tailles. Ne les approchez pas, ne les touchez pas, restez prudents. Votre vie n'a pas de prix. Ne prenez pas de risques inutiles. Informez l'autorité la plus proche. Message de l'UNMAS RDC.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
L'allaitement maternel et le travail, c'est bien les thèmes retenus cette année pour célébrer la Semaine mondiale de l'allaitement maternel. Du 13 au 17 août, le ministère de la Santé, avec l'appui de l'UNICEF et de ses autres partenaires, a sensibilisé la population sur l'importance et les pratiques de l'allaitement maternel. Madame Sylvie Fouette, représentante adjointe de l'UNICEF, s'entretient avec Jean-Pierre Elali Coco justement sur les enjeux de l'allaitement maternel en milieu de travail. Suivez.
Madame Sylvie Fouette, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes représentante adjointe de l'UNICEF en République démocratique du Congo. Dans nos sociétés africaines, l'allaitement est un geste naturel, des routines, on pourrait dire. Pourquoi toute une semaine consacrée à l'allaitement maternel?
C'est vrai, c'est un geste naturel. En RDC, 90% des enfants sont allaités, mais pas nécessairement exclusivement et pendant 6 mois. Un enfant sur deux, et pas seulement dans l'heure qui suit la naissance. Et un enfant sur deux serait mis au sein dans l'heure qui suit. Cette semaine permet de rappeler les bienfaits de l'allaitement et les bonnes pratiques. Et notamment, les bienfaits sont effectivement permettre à l'enfant un bon départ dans la vie. Et pour cela, ils apportent les éléments nutritifs en quantité et qualité maximale pour la survie et le développement de l'enfant. Et vous savez, le lait maternel apporte, et c'est très important en RDC, toute l'eau dont il a besoin, le permettant souvent d'être à l'abri des maladies diarrhiques qui sont dans ce pays une cause sur trois de la mortalité infantile. Donc cette semaine nous permet de rappeler ce geste naturel, mais aussi de rappeler les bonnes pratiques pour atteindre le maximum du bénéfice du potentiel de l'allaitement, qui sont l'initiation dans l'heure qui suit l'accouchement, exclusif jusqu'à dans les premiers 6 mois et prolongé jusqu'à 2 ans si c'est possible.
Cette année, le thème retenu est l'allaitement et le travail. Pourquoi le choix de ce thème, madame ?
Le retour au travail est une des principales causes de l'arrêt ou la discontinuité de la pratique de l'allaitement maternel. Et le message en 2016, c'est peut-être d'essayer de trouver la création de conditions et d'un environnement favorable pour permettre à la femme qui travaille d'allaiter son enfant pendant les 6 premiers mois de la vie de son enfant, en particulier exclusivement, ce qui effectivement lui demande d'être en contact avec son enfant tout en étant productif sur son lieu de travail.
Donc la femme qui travaille sera obligée d'amener l'enfant au lieu du travail et l'allaiter pendant les heures de pause.
C'est la préférence et il y a plusieurs formules. Effectivement, l'idée c'est de créer un espace qui facilite l'allaitement au sein de l'entreprise pour être un bénéfice maximum pour l'employeur. Et donc l'idée de travailler sur une solution gagnant-gagnant. Avec cette facilité, il peut compter sur la disponibilité de son employé et donc une productivité maximale tout en allaitant son enfant qui réassure la maman dans ce geste.
Concrètement, comment ça peut se faire? Vous travaillez ici dans un bureau calme. À côté, il y a des enfants, une garderie d'enfants. Il y a beaucoup de bruit, ça ne peut pas déranger l'entreprise. Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième, est-ce que cela n'est pas un handicap, un obstacle pour la rentabilité de l'entreprise et pour une femme qui travaille et en même temps, pendant les heures de pause, elle va allaiter et ainsi de suite. Est-ce qu'il n'y a pas d'handicap là-dessus pour l'entreprise qui veut la productivité et la rentabilité?
Alors, pour le premier point, au niveau de faciliter l'environnement, je pense que effectivement, on a beaucoup d'exemples créatifs. L'important, je crois, c'est de trouver un espace digne pour la maman pour pouvoir allaiter tout en gardant la quiétude des employés dans l'espace. Un espace particulièrement plus calme ou un espace au sein d'un bureau avec un rideau et effectivement, ça ne dure pas non plus très longtemps. Donc, je pense que vis-à-vis de la productivité, au contraire, une maman qui est à la fois préoccupée par la santé de son enfant ne sera pas en productivité maximale. Donc, je pense que le plus on peut alléger les préoccupations des mamans, le plus elles vont devenir productives. Et c'est pour ça que le lien avec le travail et le lieu permet aussi la disponibilité maximale.
Parlons un peu de l'allaitement maternel en République démocratique du Congo. Quel est l'état des lieux de cet allaitement maternel? Combien de femmes allaitent-elles exclusivement leurs enfants au sein en République démocratique du Congo?
Selon les chiffres, dans les premiers 6 mois, l'allaitement exclusif est de 48%, donc un enfant sur deux. Et selon aussi les bonnes pratiques dont nous avons parlé, combien le font dans l'heure qui suit l'accouchement? 52%, donc également un enfant sur deux. Donc on le voit, même si 98% des enfants sont allaités, quelques bonnes pratiques restent à être promues pour faciliter le 100% maximal.
Quels sont les avantages qu'on peut trouver dans un allaitement maternel?
Donc, il facilite l'exclusion du placenta, alors ça veut dire le liquide dans lequel l'enfant est né, et notamment réduit pour la maman les risques d'hémorragie après l'accouchement. Le lait maternel lui-même est le meilleur aliment pour les nouveaux enfants, les nouveau-nés, et notamment tous les nutriments pour la croissance. Donc la maman donne les meilleurs atouts à son enfant pour démarrer. Et notamment, il contient aussi des anticorps qui aident à protéger contre la diarrhée et la pneumonie, qui sont en RDC des causes importantes de mortalité. Et notamment lorsqu'on le combine avec de l'eau qui n'est pas toujours appropriée ou maximale ou qui peut effectivement être à risque pour les diarrhées pour les enfants. On le sait, réduit le risque de cancer du sein et des ovaires pour les mamans. On a des évidences que les adolescents et les adultes allaités sont moins susceptibles d'être en surpoids et obèses. Donc on a beaucoup de gains au-delà du pur gain direct vis-à-vis du lait maternel.
Vous avez parlé des anticorps tout à l'heure. Une mère est séropositive ou une mère malade tout court, peut-elle continuer à allaiter au sein maternel, bien sûr?
Alors, c'est très important que cette maman dont vous parlez, décrivez des conditions, le sache. Et donc, important d'aller au niveau avant l'accouchement, dès le fait de ses premières consultations prénatales, de faire le test et le traitement nécessaire. Donc, les ACT en RDC sont disponibles. Dans ce contexte-là, elle peut tout à fait continuer à allaiter exclusivement au sein jusqu'à 6 mois. Et le risque de décès pour un enfant nourri au lait artificiel semble parfois élevé. Donc en plus, non seulement elle ne transmet, donc effectivement dans ces conditions qu'elle soit bien au courant de sa situation, elle ne transmettra pas à son enfant. Et le fait de ne pas donner le lait maternel mais de donner des alternatives est parfois aussi un risque. Donc elle peut être à double risque si elle, effectivement. Donc oui, elle peut le faire dans des conditions qu'on a précisées.
Une mère séropositive peut allaiter son enfant.
Tout à fait. Alors c'est très important et je pense que le gouvernement de la RDC a fait également beaucoup d'efforts de faciliter les consultations avant l'accouchement et les consultations prénatales, notamment au-delà des 4 derniers mois, de monter dans les 7 derniers mois et de faciliter aussi de savoir effectivement la condition de la maman pour mettre au monde son enfant. Et donc c'est très important de rappeler donc le test et le traitement si nécessaire dans les consultations prénatales.
Quelle est l'implication de l'UNICEF dans l'appui du gouvernement pour rendre vraiment effectif l'allaitement maternel en République démocratique du Congo, dépasser de 1 enfant sur 2 et même arriver au top, c'est-à-dire à 2 enfants sur 2, si c'est possible?
L'UNICEF, mais je pense, et c'est vraiment vous remerciant, c'est aussi avec nos partenaires et les médias sont très importants, puisqu'en réalité, c'est de communiquer et d'informer. Et que le propre bénéfice, en réalité, que les mamans le savent et qu'elles soient informées, les mamans et les papas d'ailleurs. Et donc l'information pour nous est très importante. Et donc main dans la main ensemble avec le gouvernement, avec les médias, nous allons en parler toute cette semaine. C'est très intéressant que 8 mamans sur 10 en RDC ou 8 parents sur 10 passe par des facilités médicales pour l'accouchement. Donc l'opportunité est dans le renforcement effectivement des services d'appui, des services de base que l'UNICEF essaie au-delà des services de passer des messages de sensibilisation mais aussi les bonnes pratiques.
Madame Sylvie Fouet, Radio Capi, vous remercie.
Quelques nouvelles en bref. Une mission de la police égyptienne a visité la MONUSCO du 12 au 17 août. C'était dans le cadre d'une mission de reconnaissance d'un pré-déploiement d'une unité de police du pays des pharaons dans la mission. Après Kinshasa, la délégation a visité des sites pouvant abriter les contingents, notamment à Goma. 45 enfants, dont 6 filles victimes de violences liées au conflit en province orientale et dans le de Kivu, au cours de la semaine dernière. Information livrée mercredi par la section protection de l'enfant de la MONUSCO. La même source précise que 38 enfants ont été séparés de groupes armés, 6 filles ont été violées par les parties en conflit et un garçon de 12 ans a été blessé par des éléments armés non identifiés. Enfin, appui au secteur agricole. Après Kinshasa, le PNUD a organisé du 17 au 20 août 2015 à Bukavu une formation sur les financements des chaînes des valeurs agricoles. Une formation destinée aux membres des associations de coopératives d'épargne et des institutions de microfinance. Cela dans le cadre du programme d'appui au secteur de la microfinance. Ce programme est une initiative du gouvernement de la RDC financée et mise en œuvre conjointement par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD et les Fonds communs UNCDF.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Le magazine des Nations Unies revient sur l'entretien que la coordinatrice chargée de la sensibilisation des terrains de la Cour pénale internationale CPI en RDC a accordé mardi dernier à Radio Capi. Margot Tedesco s'exprime notamment sur les conditions de confirmation de la liberté provisoire des 4 prévenus congolais accusés dans l'affaire Bemba et sur le cas de l'ancien vice-président de la RDC lui-même. Elle répond aux questions de Pele Kipelamondo.
Margot Tedesco, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coordinatrice chargée de la sensibilisation des terrains de la CPI ici en RDC. Nous apprenons que la Chambre des premières instances 7 de la CPI a décidé ce lundi 17 août de maintenir la mise en liberté provisoire des 4 accusés qui sont Aimé Kilolo Moussamba, Jean-Jacques Mangenda Kabongo, Fidel Babala Wandou et Narcisse Arido, dans le cadre de l'affaire Bemba, Kilolo et autres. Mais cette décision est assortie des conditions, apprenons-nous. Quelles sont ces conditions?
La Chambre de première instance 7 a décidé de maintenir la mise en liberté provisoire pour ces 4 accusés. Bon, les conditions sont les suivantes et elles s'imposent aux 4 accusés. Ceci ne concerne pas Monsieur Jean-Pierre Bemba Gombo, qui est maintenu en détention dans le cadre d'une autre affaire, comme vous le savez, le procureur contre Jean-Pierre Bemba Gombo. Donc les conditions pour ce maintien en liberté provisoire sont celles-ci. Il y en a 5. Respecter toutes les instructions et les ordres de la Cour, y compris celui d'être présent à La Haye lors de leur procès. Le procès doit débuter le 29 septembre 2015. La deuxième, veiller à ce que leurs plus récentes adresses et contacts soient partagés avec la Cour et les autorités de l'État où ils sont libérés, c'est-à-dire en RDC, et qu'ils ne changent pas leur adresse sans préavis à la Cour. Donner un préavis à la Cour de tout voyage depuis des lieux où ils résident actuellement, y compris la destination, leur contact et la durée du voyage, et ne communiquer avec aucun témoin à charge dans cette affaire ou l'affaire Le Procureur contre Jean-Pierre Bemba Gombo, soit directement ou indirectement, ou par le biais d'un avocat habilité à les représenter devant la Cour. Et enfin, la cinquième condition est s'abstenir de faire des déclarations publiques, directement ou indirectement, concernant l'affaire.
Alors, qu'est-ce qui justifie cette décision? Parce qu'il me semble qu'il n'y a rien de nouveau, la décision reste la même. Alors, comment justifier le fait qu'aujourd'hui, la CPI puisse publier un tel communiqué?
La Chambre de première instance répond à un appel qui avait été fait par le bureau du procureur concernant la mise en liberté provisoire des 4 suspects. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la Chambre de première instance s'est prononcée sur cet appel. En effet, le 29 mai 2015, la Chambre d'appel de la Cour avait annulé et renvoyé devant la Chambre cette décision par laquelle la Chambre avait ordonné la mise en liberté provisoire des 4 suspects. Or, la Chambre d'appel avait constaté qu'en tenant compte du temps écoulé depuis leur mise en liberté, il n'était pas dans l'intérêt de la justice que les suspects soient de nouveau arrêtés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la Chambre de première instance fait de nouveau une décision concernant cette liberté provisoire.
Qu'en est-il de l'affaire Bemba?
Alors, dans l'affaire Le Procureur contre Jean-Pierre Bemba Gombo, l'affaire principale, les déclarations de clôture concernant des crimes qui auraient été commis en Centrafrique entre 2002 et 2003, est encore en cours. Les déclarations finales ont eu lieu le 12 et 13 novembre 2014. À ce jour, nous n'avons pas de date concernant le verdict. La Chambre de première instance 3, qui est chargée de juger cette affaire, prendra sa décision en temps voulu.
Donc, en attendant, Jean-Pierre Bemba reste en prison.
Exactement. Monsieur Jean-Pierre Bemba reste en détention et non pas en prison. Il reste en détention à La Haye concernant l'affaire principale, concernant des crimes qui auraient été commis en Centrafrique.
Comment la Cour pénale internationale justifie-t-elle la décision du maintien en détention d'un suspect?
Le maintien en détention d'un suspect est décidé, ce sont les juges donc des chambres qui sont chargés de juger les suspects ou les accusés, qui décident de maintenir ou non un accusé en détention. Les accusés restent en détention si les juges n'ont pas de preuves ou d'éléments suffisants pour s'assurer que le suspect ou l'accusé soit présent lors de son audience. En effet, à la Cour, une des requis est que le suspect ou l'accusé soit présent à son procès. Toutefois, la liberté provisoire est réexaminée régulièrement, et ce, au moins tous les 120 jours. Donc tous les 120 jours, la défense peut demander, la défense de l'accusé ou du suspect, peut demander un réexamen de la détention provisoire de la personne.
Est-ce qu'il y a un timing ou bien un moment où la demande de mise en liberté expire? Ou alors, chaque après 120 jours, comme vous le dites, l'avocat de l'accusé ou du suspect peut toujours solliciter cette mise en liberté?
La demande de liberté provisoire peut être faite au moins tous les 120 jours.
Ok.
Autant que de fois que nécessaire. Je voulais juste préciser que la défense de M. Bemba avait retiré la demande de mise en liberté provisoire et avait demandé à la Chambre de suspendre toute décision concernant son maintien en détention. Et juste qu'il y ait un verdict concernant l'affaire principale contre M. Jean-Pierre Bemba.
Marco Tedesco, nous vous remercions.
À Kisangani, le bureau de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a remis lundi dernier un lot de matériel au ministère provincial de la santé d'une valeur de $250 000. Ce don s'inscrit dans le cadre du projet de la réduction de la mortalité maternelle et infantile, appuyé par les fonds français dont l'initiative Moscoka. La cérémonie a eu lieu au ministère provincial de la Santé. Les détails dans ce reportage que nous propose Dorcas Kankou.
L'OMS, comme structure technique d'appui au gouvernement congolais, a prévu, dans le cadre de projets exécutés dans la province orientale de Membré, de remettre cette dotation. Ce matériel est constitué des kits sanitaires, du matériel didactique pour la formation, ainsi que du matériel roulant et flottant pour faciliter la mobilité. Docteur Marie Jokiko, médecin épidémiologiste et chef de bureau de l'Organisation mondiale de la santé à Kisangani.
Dans le cadre de la réduction de la mortalité maternelle et infantile, les projets appuyés par les fonds français, l'OMS a prévu de remettre dans les zones de santé les équipements pour la réanimation des enfants, les équipements médicaux pour les soins. Il y a les matériels de formation pour essayer d'améliorer la qualité des prestations des prestataires. L'OMS a appuyé aussi le gouvernement dans le cadre du renforcement des managements de VIH au PNLS et c'est en rapport avec ces projets qu'il est prévu la dotation de 5 motos dans les 5 zones de santé de la ville. Mais dans le cadre de l'immunisation, l'OMS a pu mobiliser des fonds auprès des Canadiens pour renforcer la surveillance et les transports des échantillons. 2 motos qui vont être prépositionnées aux dépôts de Isiro et les poules de Bouta pour faciliter les transports des échantillons. Toujours dans ce même cadre, l'OMS a prévu 6 hors-bord pour les zones de santé riveraines, 5 pour les zones de l'antenne Lokutu et un hors-bord pour Loa.
L'OMS va également faciliter l'acheminement de ce matériel jusqu'auprès de zones de santé bénéficiaires.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Processus de rapatriement des ex-combattants M23 et implication de la MONUSCO. Suivez cette question posée au cours de la conférence des presse des Nations Unies mercredi dernier, ainsi que la réponse du porte-parole de la MONUSCO, Monsieur Félix Bass.
Oli Mouzalia pour la BBC. J'aimerais savoir où en est le processus de rapatriement des ex-combattants du groupe M23 et savoir éventuellement dans quelle mesure la MONUSCO est impliquée dans ce processus.
La déclaration de Nairobi fait obligation à certaines parties de remplir leurs responsabilités. Et depuis fort longtemps, le gouvernement congolais a initié des contacts avec les autorités tant ougandaises que rwandaises pour faciliter le rapatriement de ces ex-combattants du M23. Tout récemment, nous avons vu que le gouvernement congolais était en pourparlers très avancé avec les autorités ougandaises pour faciliter ce rapatriement. Alors, le rôle de la MONUSCO, bien sûr, dans toute cette opération, consistera évidemment à apporter un appui logistique conséquent pour faciliter le rapatriement éventuel de ces combattants du M23. Je pense que l'espoir est permis parce que la dynamique est enclenchée et toutes les parties à ce processus se parlent, se concertent et des plans sont en train d'être définis pour pouvoir rendre possible ce rapatriement qui est contenu dans les accords conclus à Addis Abeba.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Bonjour, je m'appelle Sylvie Sonin Nzanza. Marie est mère de 3 enfants. J'ai un bébé de 9 mois que j'allaite d'ailleurs. Parce que pour moi, l'allaitement maternel est très important. Ça permet de rendre fort mon enfant. J'aurai 40 ans cette année. Mon école primaire, je l'ai faite en une partie en Belgique, une partie ici en RDC, au groupe scolaire du Mouamba. Mes études secondaires également. Et mes études universitaires, je les ai faites à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, IFACIC, que vous connaissez sûrement. J'ai également une spécialisation en droit de l'homme à l'Université Henri Dunant en Suisse, sur le droit économique, socio et culturel. J'ai également un diplôme d'études approfondies à la chaire UNESCO ici à l'Université de Kinshasa en droit de l'homme. Je suis journaliste, comme vous l'avez compris, de formation. Pour le moment, je travaille à l'UNICEF en tant que spécialiste à la communication. Mon travail consiste à gérer un peu les relations avec la presse, tout ce qui est comités nationaux. Vous savez, l'UNICEF travaille avec des comités nationaux de certains pays qui soutiennent l'action de l'UNICEF. Mon travail consiste à avoir une étroite collaboration avec eux et aussi avec différents bailleurs. Quand j'arrive le matin, j'ai un agenda où j'écris toutes mes tâches la veille. Et je regarde mon agenda, je regarde ce que je dois faire pour éviter d'oublier, d'accomplir certaines tâches. En ce qui concerne mon parcours professionnel, pendant d'ailleurs que j'étudiais, J'ai commencé à travailler dans un magazine qui s'appelait Écho de la Femme à Kinshasa, mais le magazine n'existe plus. Après Écho de la Femme, j'ai travaillé à Antenna, la chaîne de télévision Antenna. Après Antenna, j'ai rejoint l'équipe de Radio Okapi. De 2003 à 2005, j'ai travaillé au sein du journal Parlé, ensuite le magazine Okapi Action. Donc après Radio Okapi, j'ai rejoint le Fonds des Nations Unies pour la Population, j'ai passé 3 ans. Après le Fonds des Nations Unies pour la Population, donc UNFPA, j'ai rejoint l'UNICEF depuis 2007, mais j'étais basée cette fois-là à Lubumbashi. 7 ans après, je reviens à Kinshasa, donc j'occupe le poste de spécialiste à la communication ici au niveau de Kinshasa. Bon, ce que j'aime faire, j'aime beaucoup marcher. J'essaye de faire un effort, si pas tous les jours, chaque semaine, je fais de la marche. Et puis, j'aime aussi sauter à la corde. En bonne Congo, j'aime beaucoup le makayabo. Donc le poisson salé, j'aime beaucoup ça. Sur le plan musical, j'aime la bonne musique. J'ai pas de préférence particulière, mais j'aime la bonne musique. Congolaise, j'aime beaucoup la musique chrétienne. Moloto, oui, j'aime beaucoup les chansons de Moloto. J'aime les 60s, les 70s, les chansons françaises, ça j'en raffole. J'aime beaucoup ces chansons, les vieux tubes là, ça j'aime beaucoup. En ce qui concerne mes perspectives d'avenir, bon, je compte continuer à travailler au sein des Nations Unies, à servir mon pays à travers les Nations Unies, à travailler pour la cause des enfants et des femmes. Pourquoi pas servir l'UNICEF, mais dans un autre pays. Je vous remercie.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche, de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Okapi.
Deux rendez-vous à ne pas oublier, le 29 août, journée internationale contre les essais nucléaires, tandis que le 30 août, c'est la journée internationale des victimes des disparitions forcées. Nous voici à la fin de ce magazine. Cette émission a été coordonnée par Elali Koko. Honoré Misenga Kalala était au reportage, à la mise en onde Dieudonné Nyangasa et Nadine Fulantimba vous l'a présenté. Bon dimanche à tous.